commerce. Donc il y avait le Forum des jeunes, une émission d'échange, une demi-heure pour discuter avec, avec des jeunes qui veulent témoigner de moments qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, on reçoit un groupe de lycéens, ils sont élèves en terminale. Et ils ont, dans le cadre d'un cours d'histoire, ils ont rencontré un ancien résistant de la Seconde Guerre mondiale qui est venu leur raconter comment, il y a plus de 70 ans, il s'est impliqué dans la résistance, comment il a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose, comment il a mis en œuvre ses premiers gestes de résistant, et puis comment s'est organisé autour de lui un mouvement de résistance qu'il a essayé de décrire, d'expliquer, tout en racontant un petit peu ce qu'il avait pu ressentir, ce qu'il avait motivé. 2 heures de rencontre avec ce résistant, finalement, et la volonté d'un groupe d'élèves à l'intérieur de cette classe de choisir des moments qu'ils ont considérés comme marquants, des moments qui les ont interpellés, et qu'ils ont choisi de vous présenter. Alors, ce qui sera intéressant dans cette émission, ce sera d'une part d'écouter les extraits de cette rencontre avec Fernand Nédélec, et puis aussi d'entendre un petit peu le regard, la résonance que ces événements peuvent avoir encore aujourd'hui pour des jeunes de 17-18 ans. Pour commencer, donc, une présentation de ce qui s'est passé, Élise, je crois que tu as préparé une petite présentation, on te donne la parole.
Le vendredi 4 décembre 2015, notre classe de terminale ES2L a eu le plaisir d'accueillir à la Malgrange Fernand Nédélec, ancien résistant de la Seconde Guerre mondiale. Ayant étudié les combats de la résistance en classe de première et l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en ce début d'année, cette rencontre s'inscrivait alors dans la continuité de notre démarche. Nous avons décidé de revenir sur ces 2 heures d'échange qui furent marquées par des moments.
D'accord, donc on se plonge un petit peu dans l'ambiance de la conférence en écoutant l'introduction, la façon dont Fernand s'est présenté au groupe.
Bonjour à vous tous. Je suppose que vous avez 16 ans, 15 ans, 16 ans. C'est ça?
17 même.
17? C'est l'âge, 17 ans, c'est l'âge que je suis rentré en résistance en 1941. Alors, ça vous situe tout de suite.
En fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment le fait qu'il ait 17 ans. Enfin, dès le début de sa conférence, il a dit... il nous a demandé notre âge et après il a dit 17 ans, c'est l'âge que je suis entrée en résistance en 1941. Et là il a marqué une pause et c'est à ce moment-là je me suis dit d'accord, ok, je comprends, enfin je vois quel genre de vie il a pu avoir parce que, enfin, à notre âge on se verrait absolument pas faire ça. Et enfin, déjà au tout début, quand il parle du fait qu'il a eu du mal à trouver du monde pour le soutenir, enfin, il s'engage directement sans, enfin, qu'il soit accompagné ou pas, on sait qu'il ira et ça, enfin, c'est vraiment fort. Et la notion de patriotisme, elle est revenue aussi de nombreuses fois dans son discours. Il parle à un moment d'un sentiment de culpabilité, mais du fait d'avoir enrôlé ses amis, il a peur... Enfin, il se sent responsable et il a peur qu'il leur arrive des choses par sa faute, mais il s'est dit il fallait qu'on agisse avant tout pour notre pays. Et on s'identifie à lui au début par notre âge, mais au final, on se rend compte qu'en fait, il y a un fossé énorme entre ce qu'il a fait et ce que nous, on a fait, parce qu'il met sa vie entre parenthèses et... pour sauver son pays, et il faut qu'il agisse avant tout, alors que, enfin, ça nous viendrait même pas à l'esprit de faire ça, sachant que, en plus, il avait pas le soutien de sa famille, vu qu'il a dit qu'il s'était fait renvoyer de chez sa tante.
Il y a quand même d'autres valeurs qu'il met en avant, les valeurs de solidarité, par exemple, la notion d'engagement citoyen, ça c'est encore des choses actuelles, non, pour vous, dans vos discussions, dans votre regard sur le monde?
Oui, bien sûr, mais je pense qu'on est quand même moins actif pour entretenir ça que lui l'était, parce que, enfin, en plus, il avait contre lui, enfin, il y avait le pouvoir de la Wehrmacht, de la propagande allemande, il avait la famille contre lui, la jeunesse, il avait aussi la faim, et c'est quand même pas dans les mêmes conditions que nous, maintenant, on penserait agir.
Merci. On va enchaîner avec quelqu'un d'autre qui voulait intervenir. Alors, Prudence, t'as choisi quel extrait, toi ?
Donc moi, je voulais parler à propos de la prise de conscience.
La prise de conscience, c'est le moment où il...
Où il décide de s'engager
en résistance.
À la rentrée d'automne 1941, je redouble sans conviction ma troisième année, parce que j'ai la tête pleine de révolte. Je ne supporte pas l'occupation. Je n'admets pas ces contraintes dégradantes où les jeunes, finalement, n'y sont pour rien. J'entends quelquefois chez les voisins la voix très réconfortante de Maurice Schumann parlant à Radio Londres. De temps en temps, Le général de Gaulle appelle les Français à la résistance. La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Donc, la guerre contre l'Allemagne continue. Après mûre réflexion, pour ma tranquillité morale, je prends position. Tout faire contre l'Allemand, tout tenter pour lui rendre la vie insupportable, tout oser pour sauver la liberté et redonner à la France sa dignité.
Voilà, donc on vient d'écouter cet extrait où Fernand raconte son retour à Toul et la façon dont il perçoit les troubles d'occupation. Alors Prudence, tu voulais réagir par rapport à cet extrait ?
Oui, parce que ce qui m'a le plus marqué, c'est donc sa prise de conscience malgré son jeune âge. Il a pleinement conscience des risques de l'occupation allemande. Il le dit, il ne cache pas sa peur, mais il ressent le besoin d'agir. Il dit que c'est pour sa tranquillité morale, donc je trouve ça assez fort. C'est à la fois un devoir et un besoin personnel. Et ce que je trouve le plus marquant, c'est cette prise de position qui est très spontanée. Il sent qu'il doit résister et c'est quelque chose en quelque sorte qui s'impose à lui.
Au-delà des difficultés à faire le geste, c'est ce déclenchement, ce moment, oui. Cet épisode qui fait qu'il se dit qu'il n'a pas le choix.
Oui, voilà, je ne sais pas si c'est dû à la jeunesse ou quoi, mais on croirait qu'il fait abstraction de sa peur et qu'il ne se pose pas trop de questions sur les conséquences et par rapport à sa famille et tout ça. Et il devait savoir à quoi ça correspondait, cet engagement-là. Mais peut-être qu'un adulte n'aurait pas peut-être osé s'engager si vite, ou je sais pas, j'ai l'impression que c'est tellement instinctif que...
Comme une évidence, oui.
Oui, voilà.
Alors que tout le contexte peut, effectivement, tout oui. pourrait influencer dans l'autre sens. Merci.
Je confie mes intentions de constituer un groupe à mon camarade Léonardon, qui m'invite à contacter Paul Chevrier, qui a 17 ans. C'était mon chef direct, à 17 ans, il avait 16 ans. 16 ans, c'était mon chef direct. Et il avait 200 jeunes derrière lui. 200 jeunes. Vous voyez que la valeur ne suit pas la grandeur de l'âge. Hein. Je lui remets un message, l'informant de mes intentions. Il me donne son accord et les premières directives qui s'imposent.
Je trouve que par le biais de ce témoignage, M. Nedelec rend un très bel hommage à son compatriote d'armes qui l'a réellement bouleversé et marqué à vie. Nous pouvons noter également qu'à cette époque, le rapport de confiance était bien plus prépondérant que de nos jours. Et nous pouvons ainsi entendre à quel point il lui porte du respect et une dévotion absolue. Ce respect et cette confiance est partagé car Paul Chevrier lui laisse mener une brigade de 6 hommes. Et c'est dans leur jeunesse qu'ils partagent le même rêve utopique, celui d'un monde meilleur.
J'ai appris que Paul avait été incarcéré à la prison de Toul pendant 2 jours. Il avait pris l'habitude d'aller la nuit au fort Saint-Michel pour voler des douilles de cartouches. Et le lendemain, il allait revendre son butin à l'arsenal de Toul au poids du cuivre. Évidemment, ces douilles étaient remontées au fort où était la réserve. Et le manège recommençait par la suite. Mais une nuit, Paul et Roland sont surpris par une patrouille.
J'ai choisi ce passage car je trouve que Fernand montre assez bien son admiration envers Paul Chevrier, qu'il considère sûrement comme un modèle pour lui. Bon, donc soit un modèle très courageux, soit un modèle complètement inconscient face au danger. À ce moment-là, Paul Chevrier, il avait 17 ans, donc l'âge que j'ai aujourd'hui. Et je m'imagine pas, moi, aujourd'hui, aller voler tous les soirs des douilles au Fort Saint-Michel de Toul face au danger des patrouilles allemandes. J'aurais peur de me rendre tous les soirs là-bas pour par la peur déjà de me faire repérer et surtout après de passer 48 heures en cellule.
Merci, Adrien.
Ben, merci à vous.
Toi, Vanny, tu voulais intervenir sur un autre extrait.
Avril 1942, j'ai récupéré un pistolet que je dois remettre à Paul Chevrier à la sortie de la messe. Malheureusement, l'engin dans ma poche n'est pas sécurisé et le coup part et je reçois la balle dans le pied devant l'église Saint-Jean-Goux, parmi tous les paroissiens qui parlent et qui discutent à la sortie de la messe. et quelques Allemands qui se promènent. Alors deux copains m'aident à partir rapidement pour être finalement opéré à l'hôpital par le docteur Rotan. Mais pour moi, la grosse difficulté, c'est de saisir les réprimandes de ma tante, qui me fait finalement promettre de renoncer à mes idées. Je suis obligé de jouer le jeu et je l'informe du stock de cartouches qui se trouve au grenier. Et alors rapidement, je préviens Paul Chevrier qui vient à vélo avec deux copains et quelques sacs chercher le trésor. Mon état, bien sûr, m'oblige à interrompre mes études pendant 3 semaines, après lesquelles je reprends mes activités de plus belle.
Alors Vanny, pourquoi est-ce que tu as choisi cet extrait ?
Fernand Houdelec, il explique toujours avec précision ses faits. Et là, ça se passe au moment où il va se trouver à la sortie de la messe, une arme qui est chargée donc dans sa poche. Et malheureusement, un coup part malencontreusement et donc il est blessé. Et de retour chez sa tante, cette dernière, contrariée, va lui demander de renoncer à ses idées. Malgré sa blessure, le résistant fait preuve tout au long de cet épisode de sang-froid et de courage. Sa préoccupation majeure reste, en dépit de la difficulté d'afficher ses convictions et le fait de désobéir à un membre de sa famille, sa lutte contre le régime de Vichy. Et donc, tout au long de l'intervention, sa voix est assurée. Il ne tremble pas, preuve de sa détermination. Il fait montre d'une très grande maturité face aux circonstances. Donc, ce passage m'a touchée parce que, bien que blessé, il ne s'apitoie pas sur son sort. Il est très courageux et son bien-être n'est pas sa priorité.
Merci Vanny. Alors, Antoine, tu as choisi deux extraits différents sur deux périodes différentes. C'est à chaque fois des actes de résistance qui sont décrits.
Au début de 1943, cette année de malheur, je compte une cinquantaine de gars décidés, malgré le service du travail obligatoire qui emporte en Allemagne les meilleurs des nôtres. Je parviens à infiltrer la police municipale de Toul, où Claude et Fernand Gros nous rejoignent. Et je prends également de gros risques en cherchant à déstabiliser des mercenaires yougoslaves de l'armée allemande.
Pourquoi tu as retenu ces deux extraits, toi ?
Parce que c'est pareil, il prend des risques pour ne pas être reconnu, et donc du coup, ça accentue cette prise de risque. Et ces deux passages m'ont marqué, parce que ces actes de résistance ont été faits alors qu'il avait seulement 17 ans, environ 17 ans, donc notre âge. Et comme le disait Adrien, je ne me sentirais pas capable à mon âge de faire tout ce qu'il a fait.
Ah, ça, c'est quelque chose qui revient dans tout ce que on dit tes camarades avant, le fait qu'effectivement, c'est cet âge-là qui est le vôtre, pour s'engager de cette façon-là, c'est quelque chose qui interpelle, qui vous pose plein de questions. Mmh. Eh bien, merci Antoine.
Merci à vous.
Début novembre, Fernand mit alerte. Il a appris qu'une liste d'une vingtaine de résistants a été déposée à la Feldgendarmerie par un mouchard. Alors donc, arrêt total de toute activité, que faire ? Alors je pars à vélo à Pierre Latrèche. Vous connaissez peut-être Pierre Latrèche ? Oui. Avec Roland Sergent, afin de nous cacher dans les grottes, avec une vieille couverture et quelques maigres provisions. Je vous rappelle qu'on est au mois de novembre 43. Jean Collin nous guide vers une grotte dissimulée dans les bois et dans laquelle nous installons un lit de roseaux. Nous avons juste une lampe à carbure et l'obscurité nous entoure et le froid et l'humidité nous pénètrent jusqu'aux os. Et le lendemain, nous décidons de repartir et nous retrouvons Jean Collin qui nous réprimande vertement. Et il faut retourner à la grotte, dit-il, car renoncer, c'est être pris. Nous réintégrons notre trou à chauve-souris. Mais alors, Colin nous apporte de la soupe et des pommes de terre. Le sixième jour, ayant fait du feu devant l'entrée de la grotte, la fumée envahit toute la grotte, et pendant une heure interminable, nous avons la certitude que nous allons crever là, comme des rats. Enfin, la fumée s'évacue, nous sortons, et Colin va à Toul, aux nouvelles. Rien ne s'est passé. Alors nous rentrons, amaigris et crottés, et je retourne à la gare.
Thomas, toi, tu voulais réagir sur cet épisode-là. En quoi est-ce qu'il t'a marqué ou pourquoi est-ce que tu l'as retenu ?
Oui, alors donc ce passage m'a marqué parce que je trouvais que c'était assez intéressant pour voir les différents dilemmes qui se posaient sûrement à beaucoup d'autres résistants à ce moment-là. Surtout les dilemmes entre tout quitter, donc par exemple son travail dont il avait parlé, sa famille, ses amis, pour une durée indéterminée en plus, puisqu'il ne savait pas quand est-ce que la traque des résistants allait s'achever, ou alors rester sur place, mais prendre le risque énorme d'être capturé. Donc eux, ils ont fait le choix de partir, mais bon, ça a un prix, puisque les conditions qu'il décrit ont l'air vraiment d'être très dures. Mais même dans ces conditions très dures, on a l'impression, dans ce qu'il dit, dans sa voix, dans la manière qu'il raconte, qu'ils ont conservé une sorte d'optimisme et même un peu l'insouciance, dans le sens où ils allument même encore un feu, alors que ça pourrait les trahir. Bon, après, c'est aussi par rapport aux conditions. Et donc, par rapport à nous aujourd'hui, je trouvais ça assez intéressant, parce que 70 ans après ces événements, nous, on a du mal à notre âge d'imaginer devoir partir dans une grotte sans savoir quand est-ce qu'on reviendra, abandonner tout. Tout ça parce qu'on a des idéaux, des idées, qu'on agit pour une cause qu'on croit juste, et qui était juste pour le coup. Et franchement, quand on voit qu'il avait notre âge au moment où il a fait ça, bah, ça force le respect et l'admiration.
Et ça pose plein de questions.
Oui, c'est ça.
Merci Thomas. Alice, tu voulais parler d'un autre extrait ?
Le bruit court que Sergent est libéré. Or, dans mon ignorance, je suppose qu'il doit sa liberté grâce à son silence, à sa ténacité devant les juges. Le 4 janvier 1944, deux cheminots sont arrêtés sur leur lieu de travail sans avoir revu leur famille. Ils seront déportés à Buchenwald, d'où ils ne reviendront pas. J'apprends que Paul Chevrier est repassé en procès. Il part à Compiègne le 17 janvier, puis en déportation à Buchenwald-Dora, où il mourra le 15 septembre 1944. Le 15 septembre 1944, je vous rappelle que c'est la libération de Nancy. Lors d'une sortie rapide à Toul, je me trouve rue de la République, en face de Roland Sergent, qui vient vers moi. Et d'emblée, il s'écarte de moi en me disant « Va-t'en, ne t'approche pas, je suis surveillant permanence. » Et je me demande encore aujourd'hui, comment se fait-il qu'il ne m'a pas dénoncé, moi? Comment se fait-il? Il a dénoncé tous les autres qui pouvaient dénoncer, et pas moi.
C'est dans des situations comme celle-ci, où le risque de la mort, ou omniprésent, ou des situations assez extrêmes qui remettent en question la vie, notre confort, que le caractère profond, les personnalités véritables des gens se révèlent. Ici, donc, le jeune sergent n'a pas résisté, disons, n'a pas supporté le supplice de la question. Mais d'une certaine façon, est-ce qu'on peut l'en blâmer? Est-ce qu'on peut dire il a fauté, puisque à seulement 17-18 ans, qui plus est, qui pourrait affirmer avoir une force d'esprit assez puissante pour résister à des tortures physiques?
Il n'a pas l'air de lui reprocher.
Ah oui, c'est absolument pas. Hein.
Ça aussi, c'est impressionnant, vu les conséquences de ce qui a été fait. On pourrait imaginer qu'il y ait plus de ressentiment par rapport à cette attitude-là. En tout cas, il ne l'exprime pas.
Enfin, en tout cas, pour lui, il est assez surpris du fait que, ça y est, il collabore d'une certaine façon avec les Allemands. Donc, en tout cas, il est libre. Et donc, cette brève rencontre entre le jeune Nedelec et le jeune sergent, donc c'est des mots rapides, c'est sergent qui parle, qui le met en garde. Et c'est une espèce de remise en perspective du lien entre les gens, de l'amitié, enfin, de ce qui... Parce qu'il le connaît pas forcément, enfin, on sait pas s'il le connaît plus que ça, mais il a donné d'autres noms, mais pas le sien. Alors, c'est comme pour des personnes rescapées de catastrophes ou de... c'est la grande question du pourquoi moi, et un espèce... Enfin, un questionnement permanent, puisqu'ils ne se reverront jamais. Et le fait un peu d'avoir le sentiment de culpabilité, d'avoir survécu et pas d'autres, puisqu'on apprend que ceux qui ont été dénoncés sont morts
après. Donc, c'est un espèce de hasard ou pas tellement qui guide un peu la vie des gens. Et j'ai trouvé ça assez fort, surtout avec cette espèce de lien entre les gens.
Merci Alice.
Je termine mon exposé sur cette triste époque en attirant votre attention sur l'impérieuse nécessité de continuer l'œuvre entreprise par Robert Schuman, Jean Monnet, c'est-à-dire la construction européenne. Elle n'est pas terminée, Dieu s'en fout, il reste beaucoup à faire. Et un jour, vous, les jeunes, devrez vous engager à votre tour pour poursuivre cette construction selon vos possibilités et vos capacités. Mais dès maintenant, cette obligation, c'est mon avis, cette volonté doit être gravée dans votre tête. C'est votre chance de vie. Et je voudrais que vous en soyez conscient. L'entente entre les nations européennes, la coexistence amicale entre nos peuples, nous a garanti une paix durable pendant 70 ans. Et ici, je me fais le porte-parole de tous mes camarades, de tous ces jeunes de 15 à 25 ans, déportés, fusillés, massacrés par un régime pourri. Ils n'ont pas eu la chance de vieillir, eux. Ce sont vos amis, vos camarades, ils sont encore parmi vous aujourd'hui. Alors écoutez-les.
Jordan, toi, tu as choisi cet extrait de conclusion et l'extrait qui vient. Après, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cet extrait a retenu ton attention ?
À mon sens, cet extrait de la déclaration de M. Ndelec est très contemporain. Parce que, à l'heure où l'Europe elle se divise sur des questions politiques, culturelles et économiques, je trouve qu'il rappelle avec détermination la nécessité d'un investissement des peuples dans le projet européen. Et je trouve qu'il nous montre que cette Europe, ça doit être une Europe qui fédère, qui unit dans sa diversité, pour rappeler sa devise, et qui garantit donc la paix et la bonne entente des peuples qui la composent. Et je trouve qu'il appuyait bien aussi sur le souvenir de ses camarades qui ne sont plus là, avec leurs idées sur lesquelles nous devons nous appuyer pour construire cette Europe. Ainsi, je trouve qu'il nous incite, nous les jeunes, à prendre part à cette construction supranationale de toute notre force, afin de créer notre Europe apte à construire un avenir meilleur pour l'ensemble des nations qui participent. Et donc, ce passage m'a personnellement interpellé par la justesse dont il fait preuve dans son traitement de la construction européenne et dans la manière dont le résistant toulois mélange combat physique et combat idéologique.
Mais ça veut dire que toi, l'Europe, par exemple, c'est une valeur qui t'importe en tant que citoyen ? C'est quelque chose qui... Tu te sentais concerné par ça avant qu'il en parle ?
Oui, je trouve que c'est l'Europe, c'est quelque chose dans le quotidien qu'on n'y pense pas suffisamment. On a tendance à un petit peu oublier qu'elle est là, qu'elle peut tous nous aider à nous construire. Et dans ces temps troubles qui sont les nôtres, on a tendance à privilégier notre individualité en tant que nation, j'entends, alors qu'on devrait peut-être finalement, avec un petit peu d'altruisme, essayer de construire les choses à plusieurs, comme le volaient Robert Schuman et Jean Monnet.
D'accord. Et donc ça, c'était une partie de sa conclusion. Et là, on va écouter une deuxième partie de sa conclusion qui t'a fait réagir aussi.
Oui.
Voici, pour terminer, quelques pensées personnelles. Ça n'engage que moi. C'est lorsqu'on n'a plus de liberté que l'on apprécie sa valeur. Mais alors, il est bien difficile de la récupérer lorsqu'elle nous est volée. Qu'importe les efforts, c'est le résultat qui compte. Rappelez-vous de ça, les jeunes. Qu'importe les efforts, c'est le résultat qui compte. La patience et la ténacité nous permettent de faire face aux difficultés et à l'adversité. Le courage nous donne la garantie de les vaincre. La plus grande camaraderie et la plus profonde amitié, j'ai dit plus grande camaraderie, plus profonde amitié, sont celles qui se créent dans les plus durs moments, les périodes les plus tragiques. J'arrête là-dessus. La valeur morale de chaque individu ne dépend pas de sa couleur de peau, ni de son rang social, ni de ses convictions religieuses. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre compréhension. Et de votre attention. Merci. Merci à vous tous.
Cette conclusion, donc, elle porte sur des valeurs plus générales que les valeurs évoquées à propos de l'Europe tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça t'a marqué ?
Mais je trouve que cette dernière prise de parole, elle conclut d'une belle manière son intervention. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, il évoque toute la souffrance, les convictions et les vertus qu'il a contractées pendant cette période de l'histoire dont il a été un témoin actif. Et dans un second temps, c'est par ce combat qu'il a développé toutes les valeurs morales dont il nous a parlé aujourd'hui, par exemple le respect de l'autre et l'amour de la liberté. C'est ces valeurs morales qu'il avait non seulement avant le combat, mais qu'il a développées et qui l'ont conforté dans cette idée. J'ai choisi cet extrait parce qu'il ressemble à un aboutissement, il représente un aboutissement dans le témoignage du résistant, parce que malgré l'adversité qu'il a dû affronter, cette épreuve l'a transformé et lui a permis de nous transmettre son histoire, mais aussi son point de vue plus personnel sur ses convictions. Pour moi, ce témoignage, c'est plus qu'une histoire de combat, c'est une histoire humaine.
Une histoire humaine et une histoire d'engagement, et qui peut du coup te faire réfléchir, toi, sur cette notion d'engagement de manière plus générale.
Il est évident que tout le monde peut faire quelque chose à son niveau en fonction de ses capacités et de son temps. Moi, j'étais particulièrement impressionné donc dans la manière dont il parle de ce qu'il a fait. On parle quand même, je pense qu'il le considère comme un acte citoyen, alors qu'il allait à l'encontre des valeurs de son, à l'encontre des valeurs de son gouvernement en place. Et cet engagement, c'est quelque chose de très fort. C'est s'engager. On a l'impression qu'il s'engage seul contre tous finalement, quoi. Vraiment très impressionnant et qui mérite d'être écouté.
Seul contre tous au début. Mais il se rend compte petit à petit qu'il n'est finalement pas si seul que ça. Ouais. Ça aussi, c'est un bel leçon.
C'est vraiment remarquable parce que on a l'impression de voir une sorte de mise à nu. Se confier sur ce genre de choses alors que globalement, maintenant, on le sait, une grande partie de la population française était attentiste, notamment pendant la période de l'occupation, se déclarait comme ça, c'était presque donner sa vie à l'autre. Puisqu'il pouvait parfaitement vous dénoncer et vous seriez attrapé, quoi, ou que vous fuyez. Et c'est une belle preuve d'altruisme et d'espoir envers l'humanité.
Voilà, et c'est une belle conclusion. Merci beaucoup.
Merci.